Bonsoir à toutes et à tous. Dans le but d'élargir les compétences des médecins généralistes et des spécialistes, nous avons invité le professeur Michel Mercier, qui est à mes côtés, dans ce but-là. Et je voudrais infiniment le remercier d'être là pour vous et pour nous, pour cette conférence. Il est professeur de psychologie à l'université de Namur et de Louvain. Il a enseigné très longtemps à la faculté de médecine de ces deux universités, également professeur à l'université Lucéal de Lille, économiste, donc professeur de psychologie, et également économiste et philosophe. Il est président du collège de stratégie et de prospective de la qualité de la vie du gouvernement de la région Wallonne en Belgique, président de l'ARAP, l'association Recherche Action pour personnes handicapées, avec une section sur l'accessibilité, et il est co-président de l'Association internationale de pédiatrie sociale avec moi-même. C'est dans ce cadre-là que je l'ai connu et que nous travaillons ensemble depuis assez longtemps. Il a fait un travail remarquable et qu'il continue tant universitaire qu'associatif et qu'en matière de politique de la santé, en Belgique avec un retentissement international, un rayonnement international, notamment dans le domaine de la recherche-action, vous l'avez compris, avec les professionnels et les usagers. Et donc, je vais lui laisser la parole et vous dire que vous pourrez répondre à des questions à la fin de cette conférence. Michel, tu as la parole.
Mais merci Michel. D'abord, je voudrais vraiment remercier Madame la Présidente du Conseil de l'Ordre des Bouches-du-Rhône, Madame le Docteur Maitra. Remercier le docteur Michel Blanc-Pardigon, mais qui est une amie de longue date et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler dans différents projets, différentes recherches. L'honneur et la chance aussi intellectuellement d'avoir partagé vraiment des options à la fois idéologiques, politiques mais et scientifiques avec le docteur Blanc-Pardigon, qui m'avait demandé d'aborder aujourd'hui une question intéressante pour la pratique médicale. Je ne suis pas médecin, je suis docteur en psychologie, mais pas médecin. Et donc, cette question que j'avais proposée à Michel d'aborder, c'était la question de l'accessibilité aux soins et de l'accessibilité à la promotion de la santé dans le champ du handicap. Cette accessibilité aux soins et cette accessibilité à la promotion de la santé fait l'objet d'une étude à long terme et d'une étude pluridisciplinaire lancée par le Collège de stratégie et prospective dont Michel a parlé tout à l'heure, qui est conseiller pour la région Wallonne, et on aborde ces problématiques de l'accessibilité aux soins et de l'accessibilité à la promotion de la santé. Alors d'abord, peut-être il est important de définir ce concept d'accessibilité aux soins. C'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et en particulier les personnes en situation de handicap mental, à bénéficier des aspects curatifs, mais des aspects de soins aussi, dans le prendre soin d'eux, dans le champ de la médecine. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec le docteur Mattei tout à l'heure, où on a été mis en présence, et de ce concept d'accessibilité aux soins est un concept finalement qui est réducteur, parce qu'il ne prend pas en compte toute la nécessité de prendre en compte la personne dans son entièreté, dans sa globalité, ce qui est largement défendu et pratiqué à la CIPS, qui est l'Association internationale de pédiatrie sociale, qui était fondée par Michel et des collègues à l'époque, et qui m'a accueilli tardivement après la fondation. Mais la CIPS, donc, a pour objectif d'aborder la pédiatrie dans cet aspect à la fois social et psychologique qui tient compte de l'ensemble de la personne. La promotion de la santé, par ailleurs, est un concept assez nouveau qui date des années 80-90 et qui, donc la première fois qu'il a été utilisé au niveau du gouvernement de la région Wallonne qui s'occupe de la santé, c'est en 95. Donc, et la promotion de la santé cherche à mettre en évidence les actions à mener concernant les déterminants de santé, c'est-à-dire les déterminants environnementaux, les déterminants psychologiques, les déterminants sociaux, les déterminants économiques. Donc, aborder la santé dans ses aspects pluridisciplinaires, ce qui est à la CIPS est central dans la démarche. Donc, c'est dans ce champ-là que je me situe. À la fois l'accessibilité aux soins de santé, parce que ça paraît indispensable d'adopter avec les personnes déficientes mentales des procédures qui leur permettent d'avoir accès aux soins. Et dans le contexte du Covid-19 qu'on vient de vivre, la question s'est posée de manière radicale en Belgique, parce qu'à un moment donné, et j'y reviendrai ultérieurement, il y a eu un doute quant à la nécessité d'accepter en hôpital ou en soins intensifs des personnes avec un handicap, et surtout des personnes avec un handicap mental, parce qu'elles étaient non maîtrisables. Donc, ça pose une question fondamentale et une question à laquelle les praticiens dans le champ du handicap sont confrontés et les médecins qui sont sensibles au champ du handicap sont confrontés également. Donc, on va aborder cette problématique à partir de 5 points. On va reprendre la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et dans un deuxième point, la charte Romain Jacob, dont vous avez probablement entendu parler dans vos pratiques et dans les mondes associatifs que vous fréquentez. Puis j'aborderai le mémoire d'une étudiante en santé publique, Megan Vasseur, qui a fait son mémoire avec moi sur les problématiques de signifiance de l'accessibilité aux soins dans le champ du handicap mental et avec une prise en compte de 3 acteurs, le soignant, l'aidant proche et la personne elle-même. J'aborderai ensuite alors des expériences qui ont été faites par Coactis et qui sont propres à la France et où on vous doit beaucoup, on doit beaucoup à la France avec ces expériences de Coactis et le projet Santé BD dont je parlerai et le projet HandiConnect. Et enfin, j'aborderai 3 questionnements qui ont été repris en Belgique à partir du centre fédéral. Donc, vous savez qu'on est un État fédéral chez nous, et donc la santé relève de la région Wallonne, comme Michel le rappelait tout à l'heure. Mais au niveau fédéral, il y a des questions de fond, des questions politiques de fond qui restent présentes, et notamment les problèmes de discrimination en matière de santé sont traités par un organisme public qui est UNIA, avec lequel je travaille régulièrement, ça je vous expliquerai. J'aborderai aussi les réactions dans la situation de Covid du Conseil supérieur national des personnes handicapées, donc qui est un organe qui associe différentes associations représentatives, qui fédèrent des associations représentatives, qui sont revendicatrices politiquement, donc qui ont clairement un enjeu de revendication politique. Et enfin, j'aborderai un projet plus local, qui est le projet Welcome, qui a été lancé à l'Université de Liège et au Centre d'Italie régional de Liégeois, concernant l'accueil de personnes handicapées. Donc, premier point, Convention de l'ONU relative aux droits des personnes en situation de handicap. Cette Convention de l'ONU est une convention qui a été promulguée en 2006 et qui a été ratifiée par la France et ratifiée par la Belgique en 2009. quand elle est ratifiée par un pays, elle devient déterminante parce qu'elle engage le pays à respecter la Convention. Alors, ça, c'est théorique parce que je fais partie d'un groupe lié au Conseil supérieur national des personnes handicapées qui dénonce régulièrement au niveau de l'ONU, au niveau du Conseil des experts de l'ONU, les lieux où cette convention de l'ONU n'est pas suivie par la Belgique et n'est pas respectée. Alors, pourquoi cette convention ? Vous me direz, parce qu'elle reprend une série de droits fondamentaux pour les personnes handicapées, dont le droit au logement, le droit à la santé, le droit à l'emploi, le droit à être concerné politiquement, le droit à l'éducation, donc une série de droits qui sont repris déjà dans la Déclaration des droits de l'homme et dans la Déclaration des droits de l'enfant quand ça concerne l'enfant. Donc, ça ne fait que qu'appliquer au handicap, si vous voulez, des principes déjà repris dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées aborde dans son article 25 le droit à la santé. Mais ce droit à la santé, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y est déjà. Mais ici, elle montre la Convention en quoi des dispositifs particuliers doivent être pris en compte pour que le droit à la santé soit effectif et soit réalisé concrètement, finalement, dans le champ social et le champ politique. Et donc, la Convention de l'ONU affirme que les personnes handicapées, quel que soit le handicap, ont droit à la santé et ont droit à ce que soit attribué par le pouvoir public des moyens pour que la personne en situation de handicap, la Convention de l'ONU parle de personnes en situation de handicap, et on a discuté avec le docteur Mattei tout à l'heure, lui n'aime pas trop qu'on utilise ces concepts de situation de handicap parce que ça ne change pas grand-chose concrètement, disait-il, mais je crois que ça change concrètement quand le droit est respecté, mais souvent le droit n'est pas appliqué, n'est pas respecté. Et donc cette convention de l'ONU a le mérite de mettre en demeure les États de faire des aménagements raisonnables pour que les droits qui sont exprimés, qui sont repris dans la Convention, soient réellement appliqués, notamment dans le domaine de la santé. Il faudrait des aménagements raisonnables pour que les personnes handicapées aient tout le droit, finalement, à la santé, au même titre que tous les citoyens. Ce qui n'est pas le cas, parce que ça s'est vu dans cette période du Covid, puisqu'il y a eu des dénonciations des organes représentatifs, des associations représentatives, que le droit n'était pas appliqué pour les personnes handicapées. Un deuxième point que j'aurais voulu, dans les lignes générales que j'aurais voulu aborder avec vous, c'est la charte Romain Jacob que vous connaissez peut-être et que vous connaissez probablement en tant que médecin. La charte Romain Jacob a été promulguée par Pascal Jacob, qui est le père de Romain, qui est un enfant, qui était à l'époque un enfant, maintenant qui est un adolescent, même un jeune adulte déficient intellectuel. Et Pascal Jacob voulait finalement sensibiliser l'opinion publique et surtout le politique pour que les personnes déficientes intellectuelles aient droit à bénéficier d'un régime d'accessibilité à la santé égalitaire et équitable par rapport aux citoyens en général. Et donc, Pascal Jacob a réuni avec un groupe en didactique les personnes handicapées elles-mêmes, leur entourage, des praticiens de la santé et surtout des politiques pour aborder des questions éthiques relatives à cette accessibilité aux soins de santé. Il considère que c'est une question d'éthique fondamentale, et dans la discussion avec Jean-François Mattei tout à l'heure, on a repris ça, ça fait partie de l'éthique fondamentale que l'accessibilité aux soins de santé soit équitable et égalitaire pour les personnes déficientes mentales. Et Jacob aborde surtout et interpelle surtout le politique, finalement, pour que cette égalité soit poursuivie. Et donc, l'égalité en matière de santé, et je le vois dans le collège de stratégie et de prospective, c'est un problème politique et éthique essentiel. Alors, je voulais vous montrer concrètement que ce questionnement est abordé, faire écho à le mémoire de master en santé publique de Megan Vasseur, qui est une étudiante dont j'ai suivi le mémoire et qui a étudié avec un questionnaire ouvert, à question ouverte, comment différents acteurs abordaient la problématique de la santé dans le champ des hôpitaux généraux. Donc, elle a voulu aborder le sens que mettait à cette accessibilité à la santé les acteurs soignants. Donc, elle a interrogé des médecins, elle a interrogé des infirmières aussi, elle a interrogé des personnes déficientes mentales elles-mêmes et elle a interrogé des aidants proches concernant leur perception, finalement, de l'accessibilité aux soins de santé pour les personnes déficientes mentales. Donc, c'est une analyse de représentation et elle travaille actuellement à l'île de la Réunion où elle enseigne finalement cette problématique à des ergothérapeutes et à des futurs ergothérapeutes puisqu'elle travaille avec des étudiants. Et donc, elle aborde cette question avec des sujets qui sont en dehors du processus de santé dont il parle, c'est-à-dire pour qu'il y ait un recul objectivant à partir de ce don de sens que donnent les sujets à travers ce questionnaire à questions ouvertes. Et donc, elle a, avec ses différents acteurs, abordé la problématique de l'hôpital, la problématique du rôle du soignant, la problématique de la personne déficiente mentale elle-même et la problématique de l'aidant proche. Et ces acteurs dénoncent et énoncent différentes choses qui sont utiles à rappeler à nous qui sommes soignants parce que ces acteurs, finalement, sont porteurs de changements potentiels dans le fonctionnement de l'accessibilité aux soins dans les hôpitaux généraux. Alors, pour ce qui est de l'hôpital, il dénonce la surcharge des soignants et donc l'impossibilité de développer du côté des soignants, et les différents acteurs le dénoncent, de développer finalement un véritable soin aux personnes. Deuxièmement, il dénonce l'aspect de priorité à la rentabilité des hôpitaux. Et ça, c'est tout à fait vrai. J'ai travaillé avec une équipe de neuropédiatres et de pédopsychiatres pour créer un centre de référence autisme au centre hospitalier universitaire de Louvain à Namur. Et la première chose qu'ils m'ont dit, écoutez, monsieur le professeur, il faudra que vous alliez trouver la direction de l'hôpital pour leur montrer que c'est rentable de créer un centre de référence autisme. Ce n'est plus les médecins qui dirigent les hôpitaux en Belgique, c'est l'économique, c'est l'administratif. Et ça, c'est à déplorer parce que c'est le concept de rentabilité qui est central par rapport au concept de soins et le concept des thérapeutiques aux patients. Le troisième point qui a été que soulevaient ces différents acteurs, c'est que, étant donné le manque d'effectifs dans les hôpitaux, étant donné la surcharge et cet objectif de rentabilité, on n'a pas le temps d'écouter les personnes déficientes mentales. Et il y a une revendication qui se fait en Belgique pour le moment, que l'assurance maladie et validité permettent aux médecins d'avoir des consultations du double de temps consacré, parce qu'on mesure le temps des consultations. Je ne sais pas comment c'est en France, vous me le direz, mais dans les hôpitaux, il faut, pour qu'il y ait rendement, que ça aille vite. Et donc, les gens n'ont pas le temps de, finalement, de se préoccuper de personnes qui ont besoin de plus d'attention, de plus d'écoute. Un troisième quatrième élément, que je voulais souligner et qui est souligné par ces différents acteurs, c'est l'accès à l'espace de l'hôpital qui est complexe et qui insécurise des personnes et qui rend l'hôpital énigmatique, qui rend l'hôpital dangereux, qui rend l'hôpital suspicieux pour ces personnes qui sont en situation de déficience mentale. Donc, rien que l'espace hospitalier, et quand vous êtes non-voyant, par exemple, vous vivez la même chose, c'est très insécurisant, l'espace hospitalier, ou en Belgique, on vous dit, vous suivez la route 22 pour aller à la porte 33, et vous arriverez au cabinet de consultation du médecin que vous cherchez. Donc, c'est un problème qui est soulevé par les différents acteurs. Un problème qui est soulevé aussi, c'est les freins à l'accessibilité aux soins de santé à cause, et du point de vue du soin, du point de vue de la prise en compte de la personne, à cause de principes de sécurité et de principes hygiénistes. Par exemple, les chiens de non-voyants étaient interdits dans les hôpitaux pour des questions d'hygiène. Et maintenant, il y a une loi qui est passée au niveau fédéral en Belgique où les chiens guides doivent être acceptés dans les hôpitaux. Donc, il est clair que là, il y a quelque chose à faire du point de vue de l'évolution du contexte hospitalier, d'après les acteurs que, je rappelle, Megan Vasseur a interrogé dans son enquête ouverte, c'est un mémoire qui a eu un prix d'ailleurs au niveau de l'Université de Louvain. Et enfin, il est dénoncé que, et ça, c'était évoqué avec Jean-François Mattei tout à l'heure aussi. Il est dénoncé qu'on a une perspective curative dans le contexte hospitalier et pas une perspective de care, pas une perspective de soins du patient, mais de soins du patient dans sa globalité, comme je l'évoquais tout à l'heure en évoquant la CIPS. Donc, ce n'est pas une perspective de care, c'est une perspective de cure. Et on disait tout à l'heure aussi qu'il n'y a pas de formation, il n'y a plus de formation dans les études de médecine pour se former au care. Il y a un peu dans les cours de psychologie ou de philosophie, mais c'est tout à fait insignifiant par rapport à la globalité de la formation médicale. Dans ces situations d'organisation hospitalière, les personnes sont souvent en situation de défi par rapport à la médecine et aux médecins, en situation de révolte ou en situation de résignation. Je n'ai pas le temps d'insister là-dessus, mais il y a des réactions psychologiques des patients et de leur entourage aussi, des étants proches, de défi à la médecine, de révolte contre la médecine. Et ça, les associations représentatives ont exprimé leur révolte à partir des réactions dans le cadre du COVID-19. D'ailleurs, il y a des manifestes qui ont été publiés, il y a des interpellations parlementaires qui ont été faites, et donc il y a vraiment des réactions des patients. Mais malheureusement, les patients déficients intellectuels, comme le dénonçait l'étudiante qui a fait ce mémoire, les patients déficients intellectuels ne sont pas en mesure, finalement, de revendiquer d'être en situation d'empowerment, une situation d'appropriation pour revendiquer leurs droits dans le champ médical. Un deuxième acteur que j'aborderai dans les résultats de ce travail de mémoire, c'est la personne déficiente mentale elle-même. Alors on peut constater que plus le handicap est lourd, plus la personne est en situation de désappropriation de sa maladie et de désappropriation des soins qui lui sont apportés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à modifier dans l'action thérapeutique et l'action curative avec les personnes déficientes mentales. C'est de lutter contre cet empowerment qui est d'autant plus limité que le handicap est grave. Deuxièmement, la personne intériorise les stéréotypes concernant le handicap. L'infantilisation, l'incapacité, donc ça, c'est vraiment intériorisé par les personnes handicapées en général, très souvent, et par les personnes déficientes intellectuelles en particulier. De plus, les personnes ont un stress face au contexte hospitalier. Je l'ai déjà évoqué à propos de l'espace hospitalier tout à l'heure, mais un stress qui est dû soit à des mauvaises expériences, soit à des représentations sociales qui jouent dans les familles de personnes handicapées. La personne déficiente intellectuelle, dans ce champ de l'accessibilité aux soins de santé, a aussi des difficultés de communication. C'est essentiel d'être capable de communiquer dans une médecine de la rentabilité, dans une médecine de la surcharge des médecins, etc. Il faut savoir communiquer si on veut se faire entendre. Très souvent, les personnes en situation de déficience intellectuelle n'ont pas les outils de communication utiles pour, finalement, se réapproprier la démarche thérapeutique qui se fait à leur égard. Et Michel, qui travaille en IME, sans doute doit avoir constaté ce genre de limites et ce genre de difficultés. Et enfin, un point sur lequel j'insisterai, c'est qu'il a été dénoncé souvent que les apparences physiques des personnes avaient un impact sur la pratique de soins avec ces personnes. C'est clair qu'il y a des personnes qui sont en situation d'un certain rejet dû à leur apparence physique. Et l'apparence physique, finalement, entraîne une infantilisation, même avec des personnes handicapées physiques qui sont finalement intellectuellement tout à fait performantes. Il y a infantilisation de la part de certaines personnes dans le corps médical et en général, dans la société en général, il y a une infantilisation parce qu'il y a un handicap physique. Comme avec les personnes vieillissantes, d'ailleurs, il y a une infantilisation aussi. Donc, ce qu'il faut mettre en évidence, c'est qu'on doit finalement aborder ces personnes en situation de déficience intellectuelle avec leurs limites et changer finalement les attitudes médicales qui sont liées à le fait qu'il y ait ce handicap, au fait qu'il y ait les composantes que j'ai énumérées maintenant et ce qui est proposé dans la recherche qui a été faite, d'informer les médecins pour que les attitudes changent et que ces dimensions intériorisées par les personnes handicapées elles-mêmes puissent être dépassées. Et il faut compter aussi sur les organisations représentatives et sur les associations pour qu'elles interviennent dans ce domaine-là. Il y a différentes associations maintenant en Belgique et chez vous, l'UNAPI aussi est intervenue pour l'accessibilité aux soins. Il y a plusieurs institutions de l'UNAPI qui luttent finalement pour changer cette accessibilité aux soins dans le contexte hospitalier en tout cas. Le troisième acteur, c'est le soignant lui-même qui peut avoir deux attitudes qui ont été caractérisées par le travail de recherche dont je vous parle. C'est des attitudes d'accompagnement paternaliste ou des attitudes d'accompagnement compréhensif. Donc, c'est une manière de caractériser des attitudes différentes que des personnels soignants ont à l'égard des personnes déficientes mentales. L'attitude paternaliste, c'est une attitude souvent qui ne tient pas compte du consentement du patient parce qu'il est considéré comme inapte à donner son consentement. Il y a des actes médicaux qui sont dénoncés dans cette recherche qui sont posés à l'encontre de l'avis même de la personne déficiente mentale. Et ça a été dénoncé très souvent dans le champ de la déficience mentale. Maintenant, ça n'est plus le cas, mais rappelez-vous qu'il y avait des stérilisations imposées à des femmes déficientes mentales, alors qu'on leur faisait croire qu'elles avaient une opération de l'appendicite, et donc et on les stérilisait à leur insu. Donc c'est vraiment... Mais non, ça ne se pratique plus. Mais ça s'est pratiqué jusqu'à peu d'années encore, ce genre de fonctionnement. Aussi, les personnes déficientes mentales sont face à, finalement, à une pratique médicale qui les désapproprie, finalement, de leur capacité qu'elles pourraient avoir à gérer leur santé. Donc ça, c'est l'attitude paternaliste qui nie, finalement, la capacité de la personne à gérer sa santé. Il y a heureusement des attitudes différentes de certains médecins sensibilisés et informés et qui sont dans des mouvements comme il y a la CIPS, comme il y a l'AIRHM, l'Association internationale de recherche sur le handicap mental, où il y a des médecins qui participent et qui, eux, veulent finalement respecter l'autonomie de la personne déficiente mentale, qui veulent aussi respecter les choix de la personne déficiente mentale par l'empathie qu'ils ont avec elle, par la tolérance qu'ils ont à son égard, malgré les difficultés de compréhension qu'elle a, malgré les difficultés de communication qu'elle a, malgré de ses apparences physiques parfois désarmantes, finalement. C'est des médecins qui, finalement, pratiquent une empathie qui permet à la personne déficiente mentale d'être apaisée et d'être amenée à réfléchir à sa santé, parce qu'on doit croire qu'elle peut réfléchir à sa santé, d'être amenée à poser des questions et d'être amenée à prendre en main elle-même, finalement, en dépassant ses angoisses, sa problématique de santé. Donc là, il est essentiel d'avoir cette attitude compréhensive pour que la personne déficiente mentale ait accès finalement à être acteur de sa propre santé. Et cette attitude compréhensive, il faut vraiment, et on le disait tout à l'heure avec Jean-François Mattei, il faut vraiment former les futurs médecins, permet les futurs praticiens à finalement avoir cette attitude compréhensive. J'ai alors les aidants proches, qui est le quatrième acteur qui a fait l'objet de cette recherche. Chez les aidants proches, il y a aussi une attitude de médiation, et peu moins d'accompagnement, mais de médiation entre la personne en situation de handicap et le soignant. Mais cette attitude de médiation peut être soit paternaliste, soit compréhensive. En effet, l'aidant proche, donc ce n'est pas le professionnel éducateur, ce n'est pas le professionnel qui a en charge les personnes en situation de déficience mentale dans les institutions, ça c'est des professionnels. L'aidant proche qui, depuis peu de temps, a un statut en Belgique, et peut prendre des congés d'aidants proches, peut parfois avoir un subside qui lui est accordé en fonction de son état financier, de ses revenus, etc. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais il y a l'Association des aidants proches en Belgique qui est très active et qui a fait reconnaître un statut de l'aidant proche. Mais l'aidant proche peut être aussi, lui, de son côté, paternaliste en fonction de la relation qu'il a avec la personne déficiente mentale, en fonction de l'ouverture qu'il a à l'écoute de la personne déficiente mentale. Il peut parler à sa place, il peut parler pour elle, il peut parler parce qu'il veut la protéger, dit-il, du point de vue des valeurs, il veut la protéger de, finalement, les limites par rapport auxquelles elle est confrontée, et donc le paternalisme. Et donc, on voit que l'aidant proche, il peut avoir aussi cette attitude, bien qu'il ait un discours de, finalement, de rendre la personne déficiente mentale autonome. Et il peut avoir une attitude de compréhension, une attitude d'empathie, une attitude vis-à-vis du médecin qui donne la parole à la personne déficiente mentale. Et donc, qui donne la possibilité au médecin d'être dans cette attitude d'empathie avec la personne déficiente mentale, parce que l'aidant proche est en position de favoriser finalement cette attitude. Et je reviens au médecin, j'ai peut-être pas dit suffisamment clairement tout à l'heure, le médecin est face finalement à un dilemme dans l'attitude qu'il a avec la personne déficiente mentale. Il est dans un dilemme parce qu'il défend des valeurs qui sont des valeurs humanistes et en même temps, il est pris dans une pratique où il ne peut pas appliquer ces valeurs. Et donc, ce dilemme, il doit le vivre et l'assumer parce qu'il est dans un genre de paradoxe, finalement. Je reviens maintenant à l'aidant proche. L'aidant proche est légitimé, doit être légitimé par rapport au corps médical, mais souvent ne l'est pas. Il y a un certain mépris souvent à l'égard des aidants proches. Et donc, là, il y a une difficulté de l'aidant proche, de surcharge émotionnelle, parce qu'il est à la fois en situation aussi, il est dans une contradiction, dans un paradoxe, il doit finalement défendre la personne aidée et lui donner une autonomie et une personnalité qui va l'amener à être véritablement acteur de sa santé. Et en même temps, il n'est pas toujours reconnu par le corps médical dans cette fonction. Et donc, le reproche sera légitimé en fonction, souvent, de la durée de l'aide qu'il a avec son aidé, avec la personne qu'il protège, finalement, avec la personne avec qui il est proche. Deuxièmement, il y a aussi sa connaissance du handicap qui joue, parce qu'il y a une difficulté chez de nombreux médecins de ne pas connaître les différents handicaps, de ne pas connaître les difficultés vécues par les personnes handicapées avec leur handicap. Et en troisième lieu, il y a le statut social de l'aidant proche qui joue pour sa légitimité. Et notamment, si l'aidant proche a quelque chose à voir avec le personnel soignant, c'est une infirmière ou un infirmier, si c'est un médecin ou c'est vraiment quelqu'un qui est praticien de la santé, donc sa légitimité vis-à-vis du corps médical va se modifier. Mais l'aidant proche, souvent, est sous-estimé dans son rôle, dans ce qui est dit dans l'enquête par questionnaire semi-directif qui a été menée. L'aidant proche est souvent sous-estimé ou bien il est surestimé dans son rôle. On lui donne toute la responsabilité de rendre active, de rendre procréatrice de la situation de soignant la personne handicapée. Donc on surestime son rôle en lui donnant toute la charge que ça se passe convenablement. Et donc, dû à cette sous-estimation ou cette surestimation, il y a une charge émotionnelle qui est très très forte et qui est dénoncée par les aidants proches dans cette pratique d'accessibilité aux soins de santé pour les personnes déficientes intellectuelles. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire de cette recherche, mais qui finalement met en évidence des choses qu'on voit et qu'on retrouve dans les groupes de travail de stratégie et de prospective dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ces éléments sont repris. Et il est intéressant que nous, médecins, ou nous, personnels soignants, nous ayons conscience de ces difficultés pour les dénoncer et finalement donner des formations aux jeunes médecins qui attirent l'attention sur ces éléments qui sont peut-être évidents, mais qu'il est utile de rappeler à certains moments. une association française a fort travaillé cette problématique de l'accessibilité aux soins de santé des personnes en situation de handicap et des personnes en situation de déficience intellectuelle. C'est Coactis qui a été créé en 2010 et qui a notamment en 2013 collaboré à l'élaboration de la charte Romain Jacob dont je vous ai parlé tout à l'heure. Coactis donc a fait les santé BD qui sont des outils destinés aux personnes déficientes mentales et qui tient compte de leur déficience mentale. Et c'est des bandes dessinées qui sont d'abord simples pour qu'elles soient accessibles aux personnes, qui ensuite sont dans le champ de langage facile à lire et facile à comprendre, qui sont aussi adaptées à chaque personne, parce que les médecins peuvent choisir et les soignants peuvent choisir des bandes dessinées en fonction de différents critères, l'âge de la personne soignée, le sexe de la personne soignée, le niveau de handicap, la profondeur du handicap, etc. etc. Et donc, il y a différentes bandes dessinées qui sont créées dans recherche de santé BD et qui sont avalisées, qui sont labellisées par Coactis et donc qui finalement vont dans le sens d'améliorer les compétences des personnes déficientes mentales elles-mêmes et des personnes handicapées elles-mêmes pour avoir accès aux soins de santé. Dans différents domaines que j'énumère rapidement certains, les soins dentaires, la gynécologie, la médecine générale, l'expression de la douleur chez les personnes handicapées, qui est, chez les personnes déficientes mentales est très difficile, l'oncologie, la maternité, la contraception, la sexualité, donc ce sont différents domaines qui sont abordés par Santé BD. Alors, je demanderai à Marie-Martine Gernet d'aller sur le site et de vous montrer une ou deux planches de Santé BD auxquelles on aurait accès. Est-ce que vous connaissez Santé BD dans l'Assemblée ?
Non.
Non ? Alors ça va, c'est bien, ça vaut la peine de montrer. Enfin, je vous suggère d'aller voir sur le site où je vous ai donné la référence dans le PowerPoint. Et c'est vraiment des outils qui sont vraiment très, très intéressants et très utiles. Alors, HandiConnect est destinée aux professionnels de la santé eux-mêmes et fournit des fiches concernant les différents domaines qui ont été cités dans Santé BD, la gynécologie, les soins dentaires, la médecine générale, etc. Et des fiches concernant les différents types de handicap. Le but est de favoriser finalement une mise à l'aise des praticiens de la santé vis-à-vis des personnes en situation de handicap et d'offrir des formations. Il y a 77 organismes de formation qui sont renseignés sur le site d'HandiConnect. Il y a des fiches, il y a 47 fiches qui sont renseignées et qui sont adaptées à différents domaines de la médecine et à différents types de handicap. Donc, je n'en dirai pas plus, je vous suggère d'aller voir sur le site parce que ça vaut vraiment la peine et c'est vraiment un projet très, très intéressant qu'on a diffusé en Belgique. On est, nous, donc l'ASBL arabe dont Michel parlait tout à l'heure, est porteur de Santé BD et d'HandiConnect en Belgique, et ça a beaucoup de succès. Et vous avez remarqué que les dernières fiches de Santé BD et aussi HandiConnect sont destinées à la vaccination dans le cadre du Covid-19. Donc, vous voyez qu'ils se mettent à jour, et vraiment, les fiches Covid-19 ont été très utilisées dans les associations avec lesquelles on travaille et qu'on a sensibilisé à leur utilisation en Belgique. Le dernier point que je voulais aborder rapidement, alors, c'est deux, trois initiatives qui ont été menées en Belgique. C'est d'abord une initiative de UNIA, donc c'est un organe public qui est chargé de lutter contre les discriminations en matière de racisme, en matière de genre, en matière d'orientation sexuelle et aussi en matière de droit à une égalité sociale, en matière de handicap. Et UNIA a fort milité pour l'application de la Convention de l'ONU sur les droits des personnes handicapées, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ça montre qu'il y avait une commission d'accompagnement dont j'étais membre, qui était chargée de dénoncer des discriminations qui allaient à l'encontre de l'application de la Convention de l'ONU. UNIA aussi a dénoncé, dans le cadre de la pandémie, des discriminations à l'égard de certaines personnes handicapées. Donc les gens peuvent déposer une plainte à UNIA qui ne fait pas de procès, mais qui dénonce publiquement et qui dénonce auprès des pouvoirs publics les discriminations qui sont relatées dans des dépôts de plaintes par les gens. Le deuxième projet dont je voulais vous parler, mais c'est qui est proche là aussi, c'est le Conseil supérieur national des personnes handicapées qui a dénoncé dans le cadre de la crise des restrictions d'accès aux hôpitaux de personnes déficientes mentales et de personnes handicapées motrices graves dans le cadre du Covid-19. Donc, ça a été dénoncé aussi. Et là, vous pouvez aller voir sur le site du Conseil supérieur national des personnes handicapées, qui a un organe d'interpellation des politiques, que les revendications qui ont eu lieu au niveau du Covid-19. Un troisième projet dont je voulais vous parler, c'est le projet Welcome qui a été créé par le Centre hospitalier régional de Liège, qui a travaillé avec l'Université de Liège et des associations, donc de Liège en Belgique, et des associations de défense des personnes en situation de handicap. C'est le projet Welcome. Au Centre hospitalier régional, trois professionnels sont chargés d'organiser l'accueil des personnes handicapées dans l'hôpital. Et donc, ça se passe comment ? Les personnes en situation de handicap ou leurs aidants proches peuvent appeler les professionnels du projet Welcome qui vont aménager l'accessibilité à l'espace de l'hôpital, qui vont aménager les déplacements dans l'hôpital, qui vont aménager, par exemple, l'accessibilité au parking, qui vont aménager l'accessibilité aux différents services de l'hôpital, que ce soit les services médicaux, mais les services sociaux aussi de l'hôpital, et qui vont aménager aussi, parce que c'est, vous savez mieux que moi probablement, qu'en matière d'imagerie médicale, par exemple, il y a des difficultés d'accessibilité pour certains handicapés physiques, grands handicapés physiques, aux outils, finalement, de l'imagerie médicale. Donc, le projet Welcome, c'est un groupe de professionnels qui travaillent avec les bénévoles de l'hôpital, mais avec les professionnels d'hôpital, pour favoriser l'accessibilité, et qui travaillent y compris avec les soignants, pour les aider à dépasser des craintes, à dépasser des méconnaissances du handicap, à dépasser des difficultés rencontrées par les personnes handicapées. Voilà, je croyais que j'allais être beaucoup plus court que 45 minutes, excusez-moi. Et excusez-moi encore pour certaines hésitations dues finalement au post-stress d'aéroport. Voilà, Michel.
Merci beaucoup, Michel Mercier. On peut peut-être poser quand même une question qui a été posée. Difficulté d'un médecin généraliste par rapport à la sexualité des personnes en situation de handicap, quelle difficulté à aborder le sujet, à en parler, que ce soit déficient mental, enfin intellectuel, ou trouble neuromoteur. Est-ce que tu peux aborder?
Mais j'ai largement abordé dans ma carrière, je n'en ai pas parlé ici, les problématiques de sexualité des personnes déficientes intellectuelles et des personnes handicapées. Et notamment, on a travaillé des formations avec des éducateurs dans des institutions d'accueil de personnes en situation de handicap. On a travaillé avec des médecins qui étaient des médecins responsables dans des institutions de personnes en situation de handicap. Et donc, c'est clair qu'il faut travailler des représentations sociales du handicap, qui sont les personnes handicapées, comme je le rappelais tout à l'heure, sont infantilisées ou jugées incapables, et surtout incapables dans le champ de la sexualité. Or, l'accessibilité à la sexualité, pour moi, c'est une forme d'accessibilité à la santé. La santé sexuelle est essentielle. Alors là, je pourrais vous en parler pendant 2 heures. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec Catherine Acté, qui est sexopédagogue en Suisse et qui a notamment travaillé les problématiques d'assistance sexuelle qui sont fort controversées et auxquelles je me suis personnellement opposé, ou en tout cas, j'ai présenté des réticences à la problématique de l'assistance sexuelle. Maintenant, j'ai un peu évolué à ce niveau-là parce que j'ai entendu des personnes handicapées physiques et graves qui disaient « mais c'est la seule manière pour nous d'avoir du plaisir, mais il faut aussi lever les ambiguïtés alors des assistants sexuels ou des accompagnants sexuels ». Donc, c'est une problématique énorme qu'il faut aborder. Et c'est vrai que les médecins sont démunis par rapport à cette problématique. Et on a lancé en Belgique le Centre de ressources handicap et sexualité à partir du Centre handicap et santé que j'ai dirigé pendant plusieurs années et qui fait partie de l'association de recherche action en faveur des personnes handicapées liée à l'université de Namur. Et donc, le Centre de ressources handicap et sexualité est un centre de ressources qui est financé par le ministère de la Région Wallonne, donc le ministère de la Santé de la Région Wallonne, et qui est là pour justement conseiller, aider et finalement éclairer par des formations et des sensibilisations les familles, les personnels soignants, mais aussi les éducateurs et aussi les personnes handicapées elles-mêmes qui peuvent s'adresser au centre de ressources handicap et sexualité. Alors, à l'Université libre de Bruxelles, donc, qui est l'université qui est l'équivalent de monde laïque de l'Université de Louvain, finalement, qui est, elle, catholique, à l'Université libre de Bruxelles, j'ai donné, dans le cadre du certificat universitaire en sexologie, un cours sur la sexualité et le handicap. Et donc, travailler avec les futurs sexologues, les problèmes de représentation et les problèmes... Donc, c'est comme sans TBD, il faut à la fois être formé dans le champ de la sexualité et dans le champ de la sexologie et aussi formé dans le champ du handicap parce que les problématiques de sexualité se posent de manière très différente selon les handicaps. Les handicaps sensoriels, ce n'est pas les mêmes problématiques que les handicaps physiques ou les handicaps intellectuels. Donc, c'est une vraie question qui est posée par votre confrère en médecine générale, ça se pose régulièrement. Et c'est trop peu mis en évidence. Et de nouveau, il n'y a pas de formation concernant la sexologie dans la formation médicale. Les médecins qui s'intéressent à la sexologie doivent faire en Belgique, en tout cas, une spécialité en sexologie fonctionnelle. Donc voilà.
Il y a probablement là un créneau dans la formation des médecins à développer en France également. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Michel Mercier. Merci à toutes les auditrices et tous les auditeurs et tous nos confrères qui sont là. Bonne soirée à tout le monde.
Merci à vous pour votre accueil et pour votre bienveillance. Voilà, merci.